Bienvenue à tous sur France Culture si vous nous rejoignez maintenant. Il est midi et demi. Tout de suite, le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Des pluies torrentielles et des vents frôlant les 300 km à l'heure, l'ouragan d'Orient qui s'est abattu hier sur les Bahamas s'est encore intensifié et poursuit désormais sa trajectoire incertaine vers les États-Unis.
Après un week-end marqué par de violentes échauffourées, des milliers d'étudiants ont encore manifesté ce matin, c'était à Hong Kong.
Oui, premier jour d'une campagne de boycott, des cours destinés à maintenir la pression sur le gouvernement, lequel n'a toujours fait aucune concession majeure au mouvement pour la démocratie. Nous irons également en Allemagne, où l'AfD a certes perdu hier son pari de remporter les élections régionales. Sauf que sa deuxième place n'en fait pas moins de l'extrême droite le vrai vainqueur du scrutin.
Forte turbulence en vue chez Aigle Azur aujourd'hui.
La compagnie aérienne en difficulté a convoqué ce matin un comité d'entreprise extraordinaire en vue d'une procédure de redressement judiciaire sur fond de vive inquiétude sociale. Enfin, la rentrée des classes aujourd'hui pour plus de 12 millions d'élèves. Une rentrée sous le sceau notamment de la réforme des lycées. Invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, Pierre Mathieu, directeur de Sciences Po Lille et chargé de mission sur la réforme du lycée et du bac. À lauréat. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Une rentrée qui sera aussi au cœur de nos discussions avec notre deuxième invité, le sociologue Bernard Lahire, qui signe avec une dizaine de chercheurs une vaste enquête sur les inégalités sociales et culturelles que l'on retrouve sur les bancs de l'école. Il sera donc avec nous dans la deuxième partie de la grande table.
Merci et à tout à l'heure. C'est probablement le pire et le plus triste jour de ma vie pour m'adresser à mon peuple. Hier, lorsque le Premier ministre des Bahamas, en larmes, prononce son allocution, le monstre n'a pas encore frappé le petit archipel. Quelques heures plus tard à peine, les premières vidéos se passent de commentaires. On y voit des vagues gigantesques atteignant les toits de maisons en bois, des bateaux chavirés flottant dans une eau boueuse au milieu de débris. L'ouragan Dorian qui s'est abattu hier sur le nord des Bahamas est l'une des pires tempêtes de l'histoire de ce petit archipel des Caraïbes. C'est aussi le cinquième ouragan de catégorie 5 à s'être formé dans l'Atlantique ces quatre dernières années et le plus puissant de l'année, toute région confondue, avec des vents dépassant les 300 km à l'heure. Olivier Poujade, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors à l'aube, aucune victime n'avait encore été signalée, mais d'ores et déjà la violence de cet ouragan en proportion quasiment inimaginable, de même que les scènes de désolation donc telles qu'elles apparaissent sur les premières vidéos peuvent laisser craindre le pire.
Oui, vous évoquiez les gigantesques vagues venant frapper la côte nord des Bahamas. Ces vagues peuvent atteindre 7 mètres de hauteur, poussé par des rafales de vent de plus de 360 km/h. Une telle force n'avait pas été constatée depuis 1980 et le passage du cyclone Allen. Dans un de ses derniers tweets hier, le célèbre chasseur d'ouragans américain Josh Morgerman évoquait les planches de bois vissées au bâtiment pour protéger les fenêtres qui elles-mêmes s'arrachaient sous la force du vent, laissant ensuite les habitants à la merci de l'ouragan. Les autorités sont évidemment très inquiètes. 16 000 personnes vivent sur cet archipel des Bahamas et même s'il est a priori mieux armé en termes d'infrastructures que d'autres îles caribéennes comme Porto Rico ou Haïti, les dégâts matériels seront probablement considérables. Jusqu'à 13 000 maisons pourraient déjà avoir été endommagées selon la Croix-Rouge internationale. Plus d'eau, plus d'électricité. Les ONG du monde entier font évidemment part de leurs vives préoccupations concernant surtout les habitants des Bahamas qui n'auront très bientôt plus de quoi s'abriter ou se nourrir.
Et puis, tandis que l'ouragan donc fait toujours rage ce matin sur les Bahamas, à présent, Olivier, les États-Unis, en particulier la côte est de la Floride, se préparent à leur tour à l'arrivée du monstre.
Alors, Dorian est actuellement au nord, toujours au nord de Freeport, la principale ville des Bahamas. Il se déplace très lentement, 7 km/h, dans le sens effectivement nord-ouest, c'est-à-dire en direction de la Floride. Même si, d'après les projections du Centre national américain des ouragans, Dorian devrait surtout frapper la Géorgie et les États de Caroline du Nord et du Sud. Des dizaines de milliers de personnes sont actuellement évacuées de ces quatre régions de la côte est des États-Unis. Évacuation forcée. 19 millions d'Américains au total pourraient être concernés par le passage de Dorian et 50 000 d'entre eux devraient avoir besoin d'abris d'urgence si l'intensité du cyclone ne faiblit pas d'ici là.
Merci Olivier Poujade. C'est ce qu'on appelle une victoire au goût amer. Si en Allemagne les deux partis au pouvoir, la CDU et le SPD, ont certes réussi à limiter les dégâts, ils n'en ont pas moins subi hier de très lourdes pertes, comme le laissaient craindre d'ailleurs les sondages, au profit du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne, lequel ressort in fine comme le grand vainqueur en réalité des élections régionales. Avec 27,5% des voix en Saxe, la formation populiste triple quasiment son score par rapport aux dernières élections et elle fait pratiquement le double dans le Brandenburg. Strasbourg en remportant 22,8% des voix. Ou dit autrement, et quand bien même l'AFD n'aura pas réussi à devenir la première force politique de ces deux régions, l'ex-Allemagne de l'Est confirme à travers ce scrutin son statut de bastion électoral de l'extrême droite, interrogeant du même coup sur les motivations de ce vote protestataire près de 30 ans après la chute du mur. Ludovic Piétenu, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes notre correspondant sur place. Alors au vu des premières enquêtes, Ludovic, il semblerait que l'AFD aura surtout réussi à attirer d'anciens abstentionnistes, en l'occurrence des électeurs conservateurs, qui rejettent aujourd'hui la politique centriste d'Angela Merkel.
Oui, c'est une haine hein, même quasiment qu'il voue à la chancelière depuis cette crise des réfugiés de 2015 et cette politique d'accueil. Ce sont essentiellement des hommes d'ailleurs. 4 bulletins de vote AFD sur 5, c'est considérable. Des ouvriers, des employés, beaucoup de jeunes, si vous regardez par tranche d'âge, beaucoup de primo-votants, mais surtout le plus gros des troupes, ce sont des 25-49 ans, autrement dit, ceux qui ont connu en partie l'Allemagne divisée et qui nourrissent un fort sentiment de déclassement, ce sentiment aussi d'être moins favorisé que les Allemands de l'Ouest. On retrouve dans ces deux régions d'ex-Allemagne de l'Est d'anciens électeurs de la gauche, très forte ici historiquement, Die Linke ou quelques sociodémocrates du SPD, dans une proportion plus importante, surtout ici dans la très traditionnelle région de Saxe, 84 000 anciens électeurs conservateurs de la CDU, mais surtout Thomas, 226 000 nouveaux électeurs venu de nulle part, l'AFD a convaincu des citoyens qui ne votaient pas, des abstentionnistes. Si l'on regarde à présent les cartes électorales, vous situez ces deux régions de Brandebourg et de la Saxe tout à fait à l'est de l'Allemagne, le long de la frontière avec la Pologne, puis la République tchèque, et bien les plus gros scores de l'AFD sont tout le long de ces bordures, c'est assez frappant.
Alors les résultats de ces élections constituent évidemment une nouvelle claque pour la chancelière. Que faut-il en déduire, Ludovic, quant à l'avenir de la coalition CDU-SPD au pouvoir, réputée instable? Est-ce que le scrutin d'hier laisse d'ores et déjà augurer de difficiles négociations, avec peut-être même le risque à terme d'attiser davantage encore les mécontentements si celle-ci devait aboutir par exemple à la constitution de larges alliances hétéroclites?
Ça risque de susciter effectivement du mécontentement et donc de l'instabilité là où on a pensé hier soir dans un premier temps que tout se déroulait comme avant finalement, avec la CDU victorieuse en Saxe et le SPD victorieux dans le Brandebourg. Rien ne sera plus comme avant dans la vie politique allemande, Thomas. C'est cela que viennent confirmer ces deux scrutins régionaux. Cette poussée de l'extrême droite se confirme élection après élection. Ce vote AFD se densifie partout dans le pays. Et pas seulement à l'Est, l'effondrement des partis traditionnels aussi, la montée des Verts depuis un an. Ce paysage politique est désormais si morcelé, si fragmenté, que ce qui était avant une exception, à savoir créer des coalitions à trois, va devenir la règle. Gouverner seul, c'est facile, à deux, ça l'est déjà moins, alors à trois, imaginez, les Allemands ils sont attachés à la culture du compromis, on le sait bien, mais là, ils vont devoir pousser l'exercice encore un peu plus loin.
Merci Ludovic Piétenu. Si en Italie la perspective de nouvelles élections paraît désormais écartée, pour autant l'occasion de former une nouvelle coalition gouvernementale qui exclut la toujours très populaire Ligue d'extrême droite ne se représentera sans doute pas de sitôt, et le Premier ministre désigné du nouveau gouvernement compte bien la saisir. Hier, Giuseppe Conte a annoncé qu'il présenterait la liste de ses ministres d'ici demain ou mercredi au plus tard. Au Royaume-Uni, la bataille contre le no deal et la suspension parlementaire se poursuit. Des milliers de Britanniques ont encore défilé durant tout le week-end. De leur côté, les députés, qui n'ont plus qu'une petite semaine pour se rebeller, n'ont pas l'intention de laisser passer leur chance. L'opposition travailliste a annoncé son intention de déposer demain probablement un projet de loi pour empêcher Boris Johnson de faire sortir leur pays de l'UE sans accord. Dans le même temps, la plus haute instance civile d'Écosse a, elle, choisi d'étudier une demande de parlementaires pro-européens de contrer la suspension. Et puis jeudi, une autre action en justice sera examinée à Londres. Enfin, la pression monte également du côté de Bruxelles. Hier, le négociateur en chef de l'UE, Michel Barnier, a exclu de renégocier l'accord de divorce avec le Royaume-Uni, renforçant du même coup l'hypothèse d'un Brexit dur le 31 octobre prochain. Au sortir d'un week-end chaotique marqué par de graves violences parmi les plus dures depuis le début de la contestation, les manifestants pro-démocratie hongkongais ont de nouveau tenté de perturber la circulation des métros de l'ex-colonie britannique ce matin, en appelant par ailleurs à une grève générale, de quoi laisser planer un sérieux doute sur la capacité du gouvernement local à ramener le calme au sein de la troisième place financière mondiale. Il faut dire aussi que les méthodes policières semblent avoir surtout pour effet aujourd'hui de catalyser la défiance et même parfois la radicalisation brutalité d'une partie des manifestants. Toujours est-il que ce matin, la semaine a commencé avec une rentrée des classes perturbée par l'appel au boycott des cours, appel auquel plusieurs milliers de lycéens ont bien l'intention de répondre. Les précisions de notre correspondante sur place, Florence de Changy.
C'est une rentrée des classes très politique pour les élèves d'au moins 200 établissements de Hong Kong qui ont été accueillis au gris de leurs établissements par des haies d'honneur d'élèves qui scandaient « Libérons Hong Kong, révolution de notre époque ». Les grévistes, soutenus dans certains cas par des anciens élèves, avaient recouvert leurs uniformes de classe habituels par des habits noirs, portant parfois aussi le casque jaune et un cache-œil, signe de reconnaissance des manifestants. Le lycée Saint-François, où la chef de l'exécutif, Carrie Lam, a fait sa scolarité, a participé au mouvement en autorisant ses élèves à boycotter les cours. Malgré de fortes averses, quelques milliers d'élèves grévistes se sont rassemblés à Centrale, dans le calme. Les transports publics, dans leur majorité, fonctionnent à nouveau. Il est toutefois trop tôt pour évaluer l'impact de cette grève, de même que celui de la grève générale, lancée pour 2 jours par une vingtaine de syndicats. De son côté, le gouvernement a condamné les actions du week-end qu'il a qualifiées de barbares et la police a tenté de justifier l'épisode de matraquage de plusieurs passagers lors d'une descente dans le métro samedi soir après une alerte incendie. L'agence de presse officielle chinoise, Xinhua, qui est le porte-parole de fait du Parti communiste, a déclaré hier « la fin approche pour quiconque perturbe Hong Kong ou contrarie la Chine ».
La Chine et les États-Unis ont commencé hier à prélever de nouveaux droits de douane sur leurs importations mutuelles, marquant ainsi une nouvelle escalade dans le conflit commercial qui les oppose depuis 1 an et demi. Pour autant, Donald Trump a assuré qu'une rencontre entre délégations des deux pays était toujours programmée ce mois-ci. Autre signe de cette lutte d'influence toujours croissante entre Américains et Chinois, des manœuvres navales inédites ont débuté ce matin entre les États-Unis et 10 pays d'Asie du Sud-Est. Au total, 8 navires de guerre, 4 avions de combat et plus d'un millier de soldats doivent participer à ces exercices conjoints en pleine mer de Chine méridionale, une zone maritime vitale pour le commerce mondial et extrêmement riche par ailleurs en ressources revendiquées dans leur quasi-totalité par Pékin. Israël s'est réveillé ce matin avec un arrière-goût de guerre au lendemain d'échanges de tirs entre son armée et le Hezbollah. La veille, le nord de l'État hébreu a en effet été pris pour cible par des tirs de missiles anti-chars lancés par le mouvement chiite libanais, entraînant aussitôt une riposte des militaires israéliens. Rappelons que la semaine dernière, Beyrouth avait accusé Jérusalem d'avoir mené des frappes de drones dans son bastion de la banlieue sud de la capitale. Au Yémen, une frappe de la coalition emmenée par l'Arabie Saoudite sur un centre de détention tenu par des rebelles houthis aurait fait plus de 100 morts selon la Croix-Rouge, précisant que ces frappes interviennent alors qu'un nouveau front s'est ouvert également dans la guerre. Voilà plusieurs semaines maintenant que la coalition est ébranlée par des combats internes dans le sud du pays entre les séparatistes yéménites soutenus par les Émirats Arabes Unis et les forces pro-gouvernementales soutenues par Riyad. La campagne présidentielle s'ouvre officiellement aujourd'hui en Tunisie, un scrutin aussi indécis que vital pour l'unique pays rescapé des printemps arabes de 2011 et qui doit encore consolider les acquis démocratiques. Redressement judiciaire à l'horizon pour Aigle Azur, la compagnie aérienne en difficulté a convoqué ce matin un comité d'entreprise extraordinaire sur fond de vive inquiétude sociale au sein de cette entreprise qui emploie actuellement 1150 salariés. Catherine Pétillon, bonjour.
Bonjour.
Alors la réunion de ce CE extraordinaire ce matin arrive en réalité, Catherine, après une semaine de crise absolument abracadabrantesque.
Oui, et depuis mercredi dernier, la compagnie aérienne est sous la tutelle d'un administrateur judiciaire. Elle devrait demander son placement en redressement judiciaire. C'est en tout cas l'ordre du jour de la réunion de ce matin. Résultat d'une semaine, vous le disiez, pleine de rebondissements. Lundi dernier, Gérard Roy, l'un des 3 actionnaires d'Aigle Azur, à hauteur de 19%, s'autoproclame président de la compagnie. Il place un nouveau directeur général, Philippe Bonne, et promet d'investir 15 millions d'euros dans la compagnie en grande difficulté financière. Un coup de force arrêté 2 jours plus tard par la justice. À la demande du tribunal d'Evry, les 2 hommes sont démis de leurs fonctions. Le président d'Aigle Azur, Franz Hiftin, retrouve son poste et demande la nomination d'un administrateur judiciaire provisoire. Alors que va-t-il se passer maintenant? Si la procédure de redressement judiciaire est acceptée par la justice, cela gèlera le passif de l'entreprise pendant une période d'observation, période permettant le maintien de l'activité et la reprise de tout ou partie de la compagnie par d'éventuels repreneurs. Et c'est cette bataille qui s'ouvre donc. Gérard Roy souhaite toujours prendre le contrôle de la compagnie. Dans un entretien publié hier dans le journal du dimanche, il a réitéré sa proposition d'investir à la condition de mettre en place un nouveau management. Il affirme avoir le soutien des deux autres actionnaires, bien que l'un d'eux dise le contraire. Hop et Air France pourraient aussi être intéressés par Aigle Azur. De leur côté, les syndicats SNPCFO et UNSA Aérien appelés à manifester ce matin contre une procédure de redressement, s'inquiétant des restructurations qu'elle impliquerait et des conséquences pour les 1150 salariés.
Merci Catherine Pétillon. Après 2 mois de vacances, 12 millions d'écoliers, de collégiens et de lycéens entamés ce matin dans la joie ou le stress. C'est selon une nouvelle année scolaire, année, on le sait, qui sera notamment marquée par la fameuse réforme des lycées, en particulier l'abandon des traditionnelles séries L, E, S et S, lesquelles seront remplacées par des enseignements de spécialité. Alors aujourd'hui encore, et pour la 3e année consécutive, le gouvernement avait maintenu son opération, la rentrée en musique, encourageant ainsi les établissements à accueillir les enfants par des chants ou des concerts, sauf que visiblement l'ambiance n'était pas partout à la fête. Hakim Kasmi, bonjour.
Bonjour Thomas Cluzel.
Vous avez contacté ce matin le lycée Auguste Renoir à Asnières-sur-Seine, où là-bas, pour ce premier jour de rentrée, Hakim, eh bien, les enseignants étaient en grève.
Oui, depuis ce matin, c'est l'ensemble des personnels du lycée Renoir qui sont en grève pour protester contre la perte d'heures et le manque d'effectifs. Résultat, l'accueil des élèves qui devaient effectuer leur rentrée, et découvrir leur emploi du temps et rencontrer leurs enseignants n'est pas assuré. Un manque de moyens qui aura des répercussions sur l'application de la réforme du lycée dans cet établissement, selon Jean-Rémy Girard, président du SNALC, mais également professeur de français au lycée Auguste Renoir.
On a perdu, par rapport à l'an dernier, la majorité de nos dédoublements, c'est-à-dire les groupes à effectifs réduits pour les élèves. On a perdu plus de la moitié de nos heures d'accompagnement personnalisé pour venir en aide aux élèves en difficulté. Donc, quand vous mettez ça dans la balance avec en plus le fait qu'on doive appliquer une réforme en seconde, en première, et que nos spécialités artistiques sont fragilisées et risquent de disparaître l'an prochain en classe de terminale, vous comprenez que les enseignants, qui eux veulent la réussite de leurs élèves, se mobilisent en disant on n'a pas les moyens suffisants pour que nos élèves de banlieue puissent effectivement préparer leur bac sereinement et aborder ensuite l'enseignement supérieur dans les meilleures conditions possibles.
Alors vous protestez. L'ensemble des professeurs principaux du lycée Auguste Renoir ont démissionné de leur poste de professeur principal, ce qui n'est pas un cas isolé, Thomas, car de nombreux enseignants ont fait la même chose dans de nombreux établissements en France. Une délégation s'entretient actuellement Auguste Renoir avec un représentant du rectorat.
Voilà, et pour continuer d'évoquer donc cette rentrée, invité de la rédaction aujourd'hui, Pierre Mathiot, directeur de Sciences Po Lille et chargé de mission sur la réforme du lycée et du baccalauréat. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et bien sûr, toujours à mes côtés pour vous interroger, Hakim Kasmi. Une première question, monsieur Mathiot. Récemment, le ministre Jean-Michel Blanquer a déclaré « Il n'y a pas d'ambiance délétère en cette rentrée. » Au contraire, on vient de l'entendre dans le reportage d'Hakim. La réforme du lycée qui, à partir d'aujourd'hui, se déploie désormais dans toutes ses dimensions concrètes, continue visiblement de cristalliser beaucoup, sinon de colère, d'inquiétude de la part des enseignants, pour ne parler que d'eux. Comment expliquez-vous cette défiance envers cette réforme que vous avez contribué, je le rappelle, à élaborer?
Alors, écoutez, je pense d'abord que la rentrée, c'est pas uniquement au lycée. Hein. Si on prend la rentrée depuis l'école maternelle jusqu'aux classes prépa, c'est à peu près 62 ou 63 000 écoles, collèges, lycées en France. Donc, c'est pas que le lycée. Et puis, cette défiance dont vous parlez, je crois qu'elle existe. Hein. Faut pas la nier, mais il m'apparaît qu'elle est circonscrite à quelques établissements dans lesquels une mobilisation assez forte a lieu. Le lycée dont vous venez de parler, c'est assez amusant parce que tout à l'heure j'étais sur BFM et les journalistes de BFM étaient dans le même lycée, donc j'ai l'impression qu'il y a quelques lycées qui concentrent l'intérêt médiatique en cette journée de rentrée. Je pense que ce qu'on peut dire, c'est que dans l'immense majorité des lycées, des collèges et des écoles en France, la rentrée se passe dans de très bonnes conditions. Bon, ça c'est une première chose. Après, il va de soi qu'une réforme de l'intensité ou de l'ambition de cette réforme du bac et du lycée, il est complètement logique, et je l'ai toujours dit, qu'elle suscite des inquiétudes, des formes de mécontentement, parce qu'elle bouleverse en quelque sorte l'organisation du lycée, et donc elle remet en cause pour partie ce que les professeurs faisaient par le passé, elle inquiète aussi un petit peu les parents, voilà, donc moi ça me choque pas du tout que des professeurs, que des personnels administratifs ou de service dans les établissements se déclarent inquiets par rapport à la réforme, parce que objectivement c'est une réforme qui fait beaucoup bouger l'organisation.
Alors concrètement, Pierre-Mathieu, pardonnez-moi, mais alors on est sur France Culture, je rassure nos auditeurs, nous ne sommes pas sur BFM. Aujourd'hui, il y a une inquiétude qui est certaine. Concrètement, aujourd'hui, par exemple, avec les spécialités, les programmes ont évolué, ils sont, entre guillemets, plus élitistes, et cela inquiète notamment certains élèves qui, du coup, se retrouvent à devoir passer en filière technologique, faute d'avoir le niveau. Pensez-vous que là aussi, il y a des efforts à faire sur les programmes, même si Jean-Michel Blanquer reconnaît qu'il y aura un comité de suivi, notamment sur la réforme du lycée?
Alors oui, ce comité suivi, c'est moi qui vais m'en occuper un petit peu, donc je suis un petit peu au courant. Écoutez, sur les programmes, en fait, je pense que les débats en France sur les programmes et sur le point de savoir s'ils sont soit trop élitistes, soit trop, laxistes, c'est un débat qui est aussi vieux que le lycée, et c'est pas la réforme qui fait que le débat a changé. Hein. Et ensuite, quand on regarde les diverses disciplines, moi, dans les retours que j'ai eus, et ben, dans certains cas, on m'a dit les nouveaux programmes sont trop durs, et dans d'autres cas, on m'a dit les programmes abandonnent toute forme d'ambition, etc. Donc c'est très aléatoire à analyser, et il va de soi que les programmes vocation aussi à être ajustée au fur et à mesure en tenant compte de ce que les enseignants dans les classes pourront nous dire. S'agissant des élèves qui ont été amenés à partir de la seconde générale vers une première technologique, là encore, donnez-nous des chiffres, parce que chaque année, et avant même la réforme, et vous le savez bien, un certain nombre d'élèves de seconde, et d'ailleurs malheureusement souvent des élèves venant des collèges d'éducation prioritaire à la fin de la seconde, étaient réorientés vers des filières technologiques. Ça existait avant, lorsqu'il existait les séries. Donc ce n'est pas parce que les spécialités remplacent les séries que le nombre d'élèves qui seraient réorientés en filières technologiques augmente de façon drastique.
Alors cette réforme, elle a aussi pour but de réduire les inégalités, en tout cas c'était la philosophie que vous en aviez. Concrètement, oui. En quoi va-t-elle réduire les inégalités? Parce qu'aujourd'hui, il y aura par exemple du contrôle continu en janvier et vers mai, juin, des épreuves de contrôle continu. Ne craignez-vous pas qu'en fonction des établissements, des enseignants, les universités, lorsqu'elles feront les prérequis pour sélectionner leurs élèves, se disent « bah lui, il est de tel quartier, donc il aura un moins bon niveau que celui qui est du centre-ville que par rapport à celui qui est en zone d'éducation prioritaire ».
Alors vous auriez raison si ça n'était pas le cas aujourd'hui. Dans le système dont on est en train de sortir, en 2019 par exemple, un élève d'un lycée de Seine-Saint-Denis avait des notes, et lorsqu'il était candidat en classe prépa à Paris, eh bien il est évident que les professeurs de classe prépa à Paris se disaient « il vient de tel lycée dans le 9-3, passez-moi l'expression, et donc s'il a 18, ça veut dire qu'il aurait eu 12 ou 13 dans un lycée de centre-ville de Paris ». Donc cette situation existait déjà. L'idée du contrôle continu, c'est plutôt, si vous voulez, de détager les efforts qu'on demande aux élèves par rapport au bac, que 40% sera des épreuves terminales, 60% sera des épreuves terminales, 40% sera le contrôle continu. Et moi, j'ai toujours été convaincu du fait qu'en associant un effort du sprint, c'est-à-dire des épreuves terminales, et un effort plutôt d'endurance par le contrôle continu, ça avait du sens, et notamment, ça avait du sens pour les élèves les plus fragiles dans le système, donc souvent les élèves de milieux plus modestes.
Alors par rapport à l'âge, car aujourd'hui les élèves finalement devront se spécialiser assez tôt, en devant choisir dès la seconde leur spécialité, est-ce que ce n'est pas un peu jeune en termes de maturité? On ne sait pas forcément à 15 ans, voire à 16 ans, ce que l'on veut faire plus tard.
Alors oui, bien sûr, vous avez raison. Là encore, lorsqu'un élève en seconde jusqu'à l'année dernière choisissait, parfois il choisissait pas d'ailleurs, il était un peu obligé de prendre telle ou telle filière, aller en S, en ES ou en L, c'était déjà une forme d'orientation qui pouvait l'empêcher ou les empêcher d'aller ensuite dans l'enseignement supérieur de telle ou telle filière, mais ça existait déjà. Donc le fait que les spécialités remplacent les séries, je pense que là encore, à 15 ans, en 2018 par exemple, un élève de 15 ans en seconde avait des choix à faire en choisissant ses séries. Cette fois-ci, c'est un peu différent parce qu'on va permettre aux élèves justement de faire des choix de diverses disciplines qui ne correspondent plus aux séries. On a des élèves qui vont faire des choix littéraires et scientifiques.
Mais plus spécialisés, plus spécialisés.
Économiques et sociales, et je trouve qu'en termes de liberté offerte aux élèves, ça a beaucoup de sens.
Merci beaucoup Pierre-Mathieu d'avoir été notre invité aujourd'hui dans cette rentrée.
Merci à vous.
Pierre-Mathieu, donc directeur, je le rappelle, de Sciences Po Lille, chargé de mission sur la réforme du lycée du baccalauréat. Merci également à vous, Hakim Kasmi. On termine avec un mot de météo. L'après-midi s'annonce assez largement ensoleillé sur l'ensemble du territoire, même si l'instabilité sera encore présente entre la Corse et la Côte d'Azur, avec le développement d'averses orageuses. Quelques nuages resteront également accrochés entre le nord des Alpes et le Jura. Quant aux températures, elles afficheront entre 19 et 32 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet à 18h. Vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.